Toufik Hakem.
Demain s'ouvre l'exposition Rubens, portrait princier au musée du Luxembourg. Jusqu'au 14 janvier 2018, on va avoir une nouvelle occasion de constater que peut-être malgré lui, Rubens était un immense portraitiste de cour. Lui qui se voulait d'abord peintre des grands sujets historiques. L'exposition plonge le visiteur dans une ambiance palatiale, au cœur des intrigues diplomatiques du XVIIe siècle. Rubens le peintre avait de la conversation, parlait plusieurs langues, donc il était pas seulement le peintre officiel, il pouvait être aussi le conseiller officieux, le diplomate de fait. Mais il était ni rebelle, ni paria, et encore moins artiste martyr. Et pourtant, nul n'est mieux maudit que lui, écrit de lui. Mon invité ce matin, l'écrivain Philippe Forest, qui lui consacre un livre à l'occasion de cette exposition, Rien que Rubens.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Philippe Forest.
Bonjour.
C'est vraiment bien de vous avoir au micro un mardi. Généralement, j'ai des historiens de l'art, des commissaires d'exposition. Et grâce à cette nouvelle collection de livres et cartels, on va avoir des écrivains, puisque cette nouvelle collection de livres accompagne des expositions et donne plutôt la parole, pour ne pas dire la plume, à des écrivains, pour une fois. Il y a deux livres qui viennent de sortir de cette nouvelle collection. Zoé Valdez qui parle de Gauguin, et puis le vôtre, Philippe Forest.
Oui, c'est le principe de cette collection telle qu'on me l'a présentée lorsqu'on m'a demandé d'écrire ce texte. Donc laisser des écrivains s'exprimer sous la forme qui leur plaît ou qui leur chante sur un peintre, donc comme vous l'avez dit, à l'occasion d'une exposition.
Mais pourquoi vous alors pour Rubens?
Je me pose la question. Je n'ai pas osé interroger les personnes qui s'occupent de cette collection-là, mais j'ai été un peu surpris et donc séduit par cette proposition parce que j'ai beaucoup écrit sur la peinture, sur la photographie aussi, mais surtout sur des artistes du XXe siècle. Et je crois que c'est la première fois que je consacre un texte, en tout cas de cette longueur, même s'il s'agit d'un petit texte, à un peintre du passé.
Ouais.
Voilà. Donc je me suis laissé séduire.
C'est votre coup du défi, puisque vous le dites d'ailleurs au milieu de votre texte remarquable. Par ailleurs, vous dites comment s'y prendre avec Rubens quand ce qui est possible d'écrire sur lui ressemble si peu à tout ce qui s'écrit des autres.
Moi, je suis convaincu d'une manière générale qu'il n'y a d'intéressant que ce qu'on ne comprend pas. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours guidé dans l'écriture de mes romans et de mes essais. Et dans le cas de Rubens, je crois qu'il est un peintre qui nous paraît difficilement compréhensible aujourd'hui.
D'ailleurs, on a peu écrit sur lui.
Oui, ça a été une surprise pour moi. C'est-à-dire, bien sûr, je me suis quand même un peu renseigné, même si le principe du livre, c'est de laisser parler sa subjectivité. Donc, j'ai lu. Finalement, parmi les livres récents d'écrivains, le dernier en date, c'est celui que Philippe Muret avait consacré donc à Rubens, sous le titre « La gloire de Rubens ». Mais c'est un livre qui date déjà d'il y a 25 ans, et même du côté de la critique sérieuse des historiens d'art, finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de choses de disponibles sur Rubens que sur Rembrandt, par exemple.
Alors pourquoi aller voir une exposition de Rubens? Parce que ses portraits princiers se renvoient à une époque qui n'est plus d'actualité. On connaît pas les gens qui l'a portraituré. Pourquoi? C'est quoi pour vous, Philippe Forest, l'importance d'aller voir une exposition de Rubens aujourd'hui?
Oh, mais il y a une évidence plastique qui est indéniable, et je crois que même les gens qui dénigrent ou qui ignorent Rubens sont sensibles à la force de ces tableaux. Mais comme je le disais, le fait même que nous ne sachions pas, le fait même que nous ne comprenions pas, nous amène à nous interroger sur ces témoignages du passé si frappants qui viennent jusqu'à nous.
Lui n'était pas du tout attiré par le portrait.
Oui, il a souvent déclaré qu'en fait, le portrait était une pratique à laquelle il consentait, mais à laquelle n'allait pas véritablement son goût. Pour dire les choses de manière plus triviale, il peignait des portraits parce qu'on lui demandait d'en faire. Et donc, c'était une manière pour lui de se concilier les bonnes grâces des puissants pour lesquels il travaillait. Mais lui affectionnait surtout les grands sujets, les grandes toiles. L'un n'est d'ailleurs pas incompatible avec l'autre, parce que ce qu'on connaît le mieux de Rubens lorsqu'on est parisien, et moi je me rappelle, petit parisien, mes premières visites au Louvre, c'est la grande série des tableaux consacrés à Marie de Médicis, qui malheureusement, je m'en suis aperçu récemment, n'est pas visible pour le moment à cause des travaux qui ont lieu au Louvre, sauf erreur de ma part. Mais ce sont des tableaux historiques, mais ce sont aussi des tableaux allégoriques, et il y a quelque chose de stupéfiant dans ces grands formats qui impressionne tous les visiteurs et qui m'ont impressionné lorsque j'étais enfant.
Alors, quand vous étiez enfant, Philippe Forest, comment vous avez réagi à ce tableau? Quand vous parlez d'allégorie, vous faites allusion à quoi?
C'est-à-dire, en fait, il s'agit de tableau d'histoire, c'est-à-dire Rubens peint la vie de Marie de Médicis et il fait œuvre, je le dis un petit peu dans le texte, même si le mot est bien sûr anachronique, il fait œuvre de propagandiste en fait, parce que l'image qu'il donne de la vie de Marie de Médicis est très éloignée de la réalité historique. Donc ce sont des tableaux historiques, mais en même temps, Marie de Médicis est représentée telle une divinité dans un contexte où voisine et cohabite des anges, des déesses. Tout l'imaginaire chrétien et tout l'imaginaire païen se trouvent mobilisés pour produire des images donc qui n'ont rien à voir avec des images réalistes au sens qu'on donne à ce terme désormais.
Mais comment on sait que c'est une commande de Rubens? C'est une idée de Rubens, c'est pas une commande plutôt?
Ah non, il s'agit d'une commande en fait. Hein. D'ailleurs,
mais y compris l'idée de mêler de toutes ces icônes chrétiennes autour d'une personnalité de la cour.
Oh bah ça correspondait à une pratique qui était courante à l'époque, mais qui est devenue tellement peu habituelle qu'elle nous surprend comme quelque chose de formidablement exotique. C'est ça qui fait le charme d'Étoiles de Rubens aussi. C'est qu'elles s'appartiennent à une époque tellement ancienne, à une conception de l'art tellement révolue, qu'elles peuvent nous apparaître comme étranges et donc finalement comme neuves ou comme modernes, si on veut.
Philippe Forest, dans le texte, vous dites que vous n'êtes pas historien de l'art, vous avez lu bien sûr effectivement tout ce qui a été écrit sur Rubens, comment il tire sa matière de la culture classique et de la culture chrétienne, comment il a pu faire la synthèse du Sud et du Nord, mêlant à l'inspiration flamande de ce qu'il faut de vénitien, ou bien l'inverse. Vous dites bien que c'est pas ça qui vous importe, mais en revanche, toute la force de ce texte, c'est de nous proposer de revoir Rubens en lui disant, il faut le voir comme si on était au théâtre, ou plus exactement, à l'opéra.
Je pense qu'une bonne manière d'entrer dans Rubens, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui connaît mieux la littérature que la peinture, c'est de se rappeler qu'il est le contemporain de Shakespeare.
Voilà. Bien sûr.
Et donc ça donne un sens plus juste, je crois, à l'adjectif baroque, ce que Shakespeare nous dit lorsqu'il nous dit dans La Tempête que nous sommes faits de l'étoffe des rêves et que notre petite vie est tout entourée de sommeil. C'est un peu ce que Rubens nous dit à sa manière aussi lorsqu'il montre tous ces personnages réels qui viennent de la réalité historique ou qui viennent de sa propre existence, qu'il représente en leur donnant l'apparence de divinité ou de créatures un peu féeriques, comme on en trouve justement dans le théâtre de Shakespeare, qui a aussi cette particularité de mêler le présent et le passé, le réel et l'imaginaire, l'Angleterre de laquelle Shakespeare était le contemporain et des grandes histoires venues par exemple de la mythologie classique, d'où la référence à l'opéra. C'est quelque chose qui m'a semblé pertinent.
Alors, dans cette exposition, Philippe Forest, qu'est-ce qu'on peut voir de différent? Parce que des expositions autour de Rubens, il y en a eu beaucoup, hein?
Oui, il y en a eu beaucoup. Il y a beaucoup de Rubens ou de tableaux issus de l'atelier de Rubens ou des contemporains de Rubens dans les grands musées européens. Et là, le parti pris, donc, c'est de construire une exposition autour des portraits princiers, principalement ceux de Rubens, mais pas exclusivement ceux de Rubens, puisqu'on voit également quelques-uns des contemporains de Rubens pour comparer, c'est intéressant, les portraits produits par Rubens des rois, des reines, et ceux qui ont été faits par d'autres artistes à la même époque que lui.
En parlant des visages que Rubens a peints, vous dites il n'y a personne à voir en réalité. Il a tout fait pour que notre imaginaire puisse se projeter dans ce tableau, pour que nous puissions inventer quelqu'un. Et pourtant,
C'était des gens connus, mais nous ne les connaissons plus finalement qu'à travers les images qui en ont été faites par des artistes. C'était Marie de Médicis que j'ai déjà cité, Henri IV, Louis XIII, Anne d'Autriche, Buckingham. Mais finalement, quand on dit ces noms, à quoi est-ce qu'on pense tout de suite? ou à quoi est-ce que moi je pense tout de suite, en tout cas, à des vieux romans de Dumas ou des Vaco, par exemple. Et c'est à travers tout cet imaginaire-là que la réalité historique nous parvient, et notamment du fait de la reconstruction, de la réinvention que l'on doit à Rubens.
Est-ce que vous avez réussi à savoir des choses sur l'homme, sur ce peintre, sur son époque, à travers son œuvre, à travers les tableaux de Rubens?
Dire mon parti pris consiste donc à écrire en romancier et non pas en historien de l'art, puisque ma connaissance de la peinture de cette époque est très limitée. Et donc, je cherche comment projeter ma propre subjectivité dans cette œuvre et comment la revisiter d'une manière qui, me parlant à moi, soit susceptible de parler éventuellement au lecteur. Et donc, j'ai essayé de retrouver l'homme derrière ces tableaux. Mais dans le cas de Rubens, c'est relativement difficile parce que ça n'est pas un peintre dont l'œuvre apparaisse comme directement autobiographique. Il y a des tableaux de lui dans lesquels on retrouve certains des personnages ou certains des êtres qu'il a aimé, qui l'ont entouré, notamment sa dernière femme, Hélène Fourmont. Mais à vrai dire, c'est une part de l'œuvre qui nous parle beaucoup à nous aujourd'hui parce que nous nous intéressons justement à la dimension autobiographique de l'œuvre artistique, mais qui est relativement mineure. Donc c'est de ce côté-là que je suis allé voir pour essayer de, non pas de retrouver, parce que je n'aurais pas cette prétention-là, mais de réinventer, de rêver l'homme à partir de quelques-uns des tableaux qu'il nous a laissés.
Alors il ressemble à quoi, Philippe Forest? Votre Rubens à vous?
Mais c'est un Rubens qui ressemble un peu au héros des livres que j'ai faits, et j'ai insisté sur un certain nombre de traits tirés de sa biographie, et notamment la manière dont justement il a transformé son roman familial, son roman autobiographique, en une sorte de grande fresque allégorique. Rubens perd sa fille Clara Serena alors qu'elle est toute jeune, elle est adolescente, elle a 12 ans, on la retrouve dans certains de ses tableaux. Je me suis penché sur les œuvres de lui dans lesquelles il se représente en Saint-Georges, comme s'il avait, en tant qu'artiste, à triompher d'un dragon qui est peut-être le deuil, la mort. J'ai essayé de questionner son œuvre pour y retrouver ce drame de désir et de deuil qui finalement nous concerne tous et qui est la matière exclusive, je crois, du romancier.
Même s'il a quelque chose de particulier, Rubens, c'est que justement, il n'était pas marqué par une mort, par une disparition, il n'était pas pauvre, il avait l'air d'être plutôt heureux.
Oui, c'est ce qui m'intéressait, c'est que justement, c'est un artiste que nous ne comprenons pas parce qu'il ne correspond pas du tout à l'image du peintre maudit qui s'est imposé malgré tout depuis Rembrandt, Guy Malraux, depuis Van Gogh.
Et pourtant, certainement. Philippe Forest, vous dites, nul n'est plus maudit que lui. Pourquoi?
Parce que justement, enfin, c'est une manière de jouer, un peu comme le fait d'ailleurs Philippe Muret dans son livre sur ce paradoxe-là, mais le fait même qu'il ne soit pas maudit nous le rend incompréhensible et donc nous détourne un peu de lui. Je crois que fondamentalement, quand nous pensons peinture, en tout cas du côté de ce que les écrivains disent de la peinture, il y a une fascination pour l'échec qu'on trouve exprimé dans un livre de Balzac comme Le chef-d'œuvre inconnu ou dans le roman de Zola, L'œuvre. On veut voir le peintre comme quelqu'un qui se confronte à l'irreprésentable. Alors que chez Rubens, et même s'il y a cette part de deuil que je dis, effectivement, il y a quelque chose qui est du côté de la santé, de la prolixité. C'est un peintre qui peint beaucoup, c'est un peintre qui gagne très bien sa vie, c'est un peintre qui...
Est-ce qu'il serait pas un peu cynique parce que il ne s'intéresse pas à la politique et pourtant il va être entouré de politiciens, d'hommes de décision, et il va accepter effectivement de représenter la guerre alors qu'il a jamais mis les pieds dans un champ de bataille?
Oui, et puis surtout il va jouer un rôle de diplomate, c'est-à-dire il va contribuer, dit-on, à la signature d'un traité entre l'Angleterre et l'Espagne au moment où la guerre, qui est une guerre qui a des causes politiques et religieuses aussi, est en train de dévaster l'Europe et particulièrement la partie de l'Europe qui correspond à l'actuelle Belgique et aux Pays-Bas, c'est-à-dire la patrie de Rubens. Donc il œuvre politiquement. Je crois qu'il y a aussi chez lui, c'est un humaniste, hein, c'est quelqu'un qui veut contribuer au bonheur des siens et qui veut agir pour la paix, même s'il le fait, et je suis bien d'accord avec vous, certainement avec un souci un peu cynique de s'élever au-dessus de sa condition, parce qu'à l'époque, être peintre, ça n'est pas grand-chose. Et donc, il veut fréquenter les grands et il veut tirer avantage financièrement et symboliquement du rôle qu'il joue. Mais finalement, bien sûr que si on juge tout cela à l'aune d'un certain romantisme, on peut trouver cela condamnable ou regrettable en tout cas, mais la question que nous pose Rubens, c'est de savoir si les catégories donc avec lesquelles nous appréhendons l'art depuis le 19e siècle au moins, sont bien pertinentes pour rendre compte des artistes antérieurs comme Rubens et même de l'art en général. C'est-à-dire pour moi, Rubens, parce qu'il est un peintre heureux d'être peintre, hein, Elifort dit de lui qu'il il est le dernier à avoir connu l'Éden, est-ce que pour toutes ces raisons-là, Rubens est encore susceptible d'être compris de nous, ou est-ce qu'il ne dit pas une vérité que nous avons oubliée et qu'il nous amènerait peut-être à redécouvrir ?
Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer.
Philippe Forest, vous avez reconnu la voix de Jean-Louis Barrault, mais il reprenait qui pour parler de Rubens ?
Alors c'est la première strophe, sauf erreur de ma part, du poème de Baudelaire contre les fleurs du mal, les phares, où Baudelaire passe en revue tous les peintres qu'il aime, et notamment Rubens, mais aussi Delacroix, qui est son héritier d'une certaine manière.
Mais le fleuve d'oubli.
Oui, étrange.
C'est étrange, c'est un compliment pour vous, Philippe Forest, ou pas ?
Je ne sais pas trop, et je me suis posé la question, je ne sais pas trop ce que Baudelaire cherche à dire lorsqu'il parle de fleuve d'oubli. Rubens parle de l'oubli dans une lettre qu'il écrit au lendemain de la mort de sa première femme, et il dit qu'il se confie en quelque sorte à l'oubli pour se guérir de la peine qu'il est en train de connaître. En même temps, ce fleuve d'oubli, il charrie avec lui d'immenses morceaux de mémoire qui viennent jusqu'à nous, et pas seulement la mémoire du début du XVIIe siècle, mais aussi la mémoire religieuse et culturelle plus ancienne de l'Occident.
Alors, dans cette exposition, Rubens, portrait princier au musée du Luxembourg actuellement et jusqu'au 14 janvier, est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut constater comment le peintre va évoluer au fil des ans ?
Je ne pense pas que ça apparaisse tellement dans cette exposition-là, parce que son grand mérite, c'est justement d'être fidèle à l'objet qu'elle s'est donné, c'est-à-dire les portraits princiers. Donc, pour voir les tableaux mythologiques ou les tableaux religieux de Rubens, il faut aller ailleurs, au Louvre ou à Anvers, où je me suis rendu.
Alors, comment êtes-vous sorti de cette aventure avec Rubens, Philippe Forest ?
Ben, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre, justement parce qu'il m'a obligé à me dépayser un petit peu, même si je finalement, mais je crois que c'est un peu fatal, et je retrouve dans l'histoire de Rubens telle que je la raconte un certain nombre d'éléments qui me parlent parce qu'ils me renvoient à ma propre histoire, mais c'est toujours ainsi. Je crois qu'on ne peut aimer un artiste que si on se retrouve un petit peu en lui, mais malgré cela, il y a eu un grand dépaysement à aller voir du côté de cette œuvre et à fréquenter un siècle qui est bien sûr un siècle très lointain pour nous, mais qui, si on accepte de le rêver comme j'essaye de le faire, a encore beaucoup de choses à nous dire et à nous montrer du monde.
Est-ce que vous aviez en tête tout ce que des grands écrivains ont écrit à propos des peintres, et pas seulement de Rubens en l'occurrence, parce que là, mis à part Fromentin, Claudel, il n'y a pas beaucoup d'écrits, hein, on le rappelle.
Non, enfin bon, j'ai pu passer à côté de quelque chose, mais j'ai quand même fait un travail de recherche, et les grands noms, ce sont ceux-là, oui, Fromentin et Claudel, et plus près de nous, Rubens, mais même si on regarde l'œuvre de Malraux, qui est quand même une œuvre de référence dans ce domaine-là, on voit qu'il cite assez peu Rubens, comme si c'était un peintre qui ne le concerne pas. Et c'est vrai, parce qu'en fait, ce que Rubens montre dans ses toiles correspond assez peu à la démonstration que Malraux élabore de manière magnifique. Donc, je suis allé voir du côté de ses écrivains, mais le principal, c'est Claudel. Et Claudel dit bien quelle force vivante il y a dans l'œuvre de Rubens. Il dit rien que d'entendre le nom de Rubens, ça fait du bien. Et c'est de là que j'ai tiré le titre de mon livre. Et c'est par là que le livre se termine. Il y a quelque chose d'extraordinairement vivant et jubilatoire, dynamique, énergisant dans la peinture de Rubens, pour des raisons qui sont des raisons érotiques aussi. C'est bien sûr le peintre des princes, le prince des peintres, comme on dit. C'est bien sûr un peintre qui a beaucoup sacrifié au registre religieux et mythologique, mais ce qu'on conserve surtout de la peinture de Rubens, à juste titre, ce sont les femmes qu'il peint. Et d'ailleurs, même quelqu'un comme Claudel le souligne bien. Il y a une sorte d'éloge de la chair et de la jouissance chez Rubens qui explique le caractère euphorisant de sa peinture.
L'expo à Paris au musée du Luxembourg, les portraits princiers de Rubens. Et surtout, ne ratez pas ce texte disponible en forme de livre, une nouvelle collection, donc Cartel, donc le texte de Philippe Forêt.